Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Jean, au chapitre 5, des versets 6 à 12. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ensuite, une première lecture complémentaire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, des versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Et une deuxième lecture complémentaire, toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, verset 45. Pour resituer, nous situons juste après que Jésus était déféré à Ponce Pilate et qu'il était condamné et crucifié. Donc, verset 45. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et ensuite des versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Jusqu'ici la parole.
Ah bonjour, c'est une joie de pouvoir ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui une fois à nouveau pour entendre ce que le Seigneur veut nous dire. Mais vous savez, sans témoignage, nous ne saurions rien de ce qui s'est passé si nous n'étions pas sur les lieux de l'événement. Et il existe quelqu'un qui était là lors de la venue de Jésus et qui témoigne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Et ce témoin, c'est le Saint-Esprit sur lequel nous comptons ce matin encore pour comprendre sa parole, pour saisir ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Et particulièrement dans cette épître selon Jean, qui l'a inspiré. Nous continuons sur cette série, nous arrivons bientôt à la fin de cette épître selon Jean, qui nous accompagne depuis bientôt une année. Et j'espère que chacun peut maintenant lire cette épître de Jean un peu différemment, qu'elle est devenue plus compréhensible et qu'elle est plus accessible aussi pour chacun d'entre vous. En arrivant au terme de sa lettre, l'apôtre Jean veut souligner des vérités essentielles. Et ce matin, peut-être vous vous êtes rendu compte, mais dans le texte qui a été lu dans 1 Jean 5, les versets 6 à 12, un terme est revenu 9 fois. 9 fois, ce même terme. Et ce terme, en fait, est un terme que l'apôtre Jean a utilisé une première fois dans le verset 2 de son épître, hein, lorsqu'il dit « Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Il nous annonçait là le message de cet épître et dans tout ce passage, il souligne qu'il veut que ce témoignage soit reçu. Hein, vous avez compris, c'est le terme témoignage qui est ici souligné par l'apôtre. Ce terme témoignage qui vient du grec martyreo qui a donné le terme martyr en fait. Témoigner, c'est quoi? C'est quoi témoigner? Témoigner, c'est dire ce que nous avons vu. Par exemple, hein, témoigner, c'est dire ce que nous avons vu. Témoigner, c'est déclarer une vérité connu. Témoigner, c'est attester de la vérité de quelque chose. Et Jean veut qu'une vérité fondamentale soit comprise ici. Donc le témoignage, c'est dire ce que nous avons vu, c'est déclarer une vérité connue, c'est attester la véracité de quelque chose. Et Jean veut ici qu'une vérité fondamentale soit comprise. Donc le titre de cette prédication, très simplement, c'est « Le témoignage ». Et Jean vient de dire que celui qui triomphe du monde, hein, au verset 5, juste avant le verset 6 qu'on a étudié dimanche passé, il vient de dire que celui qui triomphe du monde est celui qui croit en Jésus, le Fils de Dieu. Tout au long de cette lettre, nous retrouvons plusieurs thèmes, hein, cette notion d'aimer Dieu, cette notion d'aimer les frères et sœurs dans la foi, cette notion de garder les commandements de Dieu, et cette notion d'avoir une doctrine correcte par rapport à Jésus-Christ. Et c'est ce dernier aspect qui est à nouveau souligné ici par l'apôtre Jean. Et encore d'une autre manière, comme on l'a vu, il revient sur les sujets et chaque fois il l'éclaire un peu différemment. Et ce Jésus-Christ, par qui nous pouvons triompher du monde, doit être connu tel qu'il est réellement, parce qu'il est le centre de notre foi. Et Jean va prendre, dans un premier temps, dans le texte du jour, trois témoins. L'eau, le sang et l'esprit. Et les trois sont d'accord. Alors notre premier point traitera sur ce témoignage peut-être un peu énigmatique pour nous. On va voir ça ensemble. Ensuite, Jean, au verset 9 et 10, parle du témoin ultime. Ce sera notre deuxième point, deuxième partie. Et pour terminer, nous parlerons à l'aide des versets 11 et 12 du contenu et de la conséquence du témoignage donné dans cette parole. Voilà le menu. Ça va ? Pour l'instant, vous êtes là, c'est parfait. Alors, on va commencer par le premier point. Trois témoins sont d'accord. Alors, on va relire le texte d'abord ensemble. Les versets donc 6 à 8 de 1 Jean 5, que je vous invite toujours à garder devant vous, ouverts. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Mais qu'est-ce que cette histoire d'eau et de sang vient faire ici? Alors, que l'Esprit rende témoignage, c'est quelque chose de parfaitement clair. Hein? Il était présent durant la vie de Jésus. Il connaît donc tout de première main. Et c'est l'Esprit qui a inspiré les évangiles que les lecteurs de Jean pouvaient déjà connaître. Donc c'est l'Esprit qui a inspiré les évangiles que les lecteurs de Jean pouvaient déjà connaître. Et dans ces évangiles, l'Esprit rend témoignage à la vérité par la main de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, de différentes manières pour parler des mêmes événements. C'est le témoignage de l'Esprit, c'est évident. Cet Esprit est encore vivant actuellement, en 2019. Et c'est le même qui était témoin de la vie de Jésus-Christ sur terre. Et cet Esprit agit dans nos cœurs pour nous convaincre de la vérité. Et donc tous ceux qui sont poussés par l'Esprit de Dieu, eh bien, tous ceux qui sont réellement conduits par lui, vont dire des choses qui sont en fait en lien, en adéquation, qui ne contrediront jamais ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a inspiré. D'accord. Nous comprenons la place de l'esprit, mais l'eau et le sang.
Oh, un peu de patience.
On y arrivera. Mais j'aimerais encore m'arrêter sur un autre petit mot que nous trouvons au verset 6. Très courtement, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu. Qui est venu. Ce mot est intéressant. Parce que ce mot venu fait le lien avec tout ce que Jean a dit dans son évangile, dans 1 Jean, premier chapitre, où il exprime en fait que quelqu'un est venu, s'est incarné, quelqu'un qui existait déjà. Il s'est pas mis à exister, il est venu. Il existait déjà et il est venu s'incarner sur la terre. C'est l'incarnation de... Juste ce petit mot nous permettrait déjà de faire toute une étude. Voilà pourquoi je voulais juste vous en parler quelques secondes.
Bon, venons-en maintenant à cette eau et à ce sang. Afin de comprendre l'allusion à l'eau et au sang qui nous paraissent, c'est vrai, un peu énigmatique.
Enfin, je sais pas pour vous, mais c'est un peu énigmatique, ces mots qu'on utilise ici. Il est utile de comprendre un peu le contexte. Le contexte particulièrement d'un faux enseignement qui était dispensé à cette époque. Et c'est Irénée, qui a été formé par Polycarpe, qui lui-même a été formé par Jean lui-même, donc c'est assez proche de Jean, hein, donc c'est Irénée, qui nous transmet cette information et qui nous dit, qui nous parle donc d'une hérésie qui porte le nom de Sérinthe, qui disait que Jésus était un homme parmi les autres. Oui, un homme supérieur, mais un homme semblable aux autres hommes, fils de Joseph et Marie. En fait, disait Sérinthe, c'est au moment du baptême, de Jésus, que le Christ céleste est descendu sur lui sous une forme de colombe. Et il l'a rendu capable de révéler Dieu de façon nouvelle et capable d'accomplir des miracles. Et avant la mise à mort de Jésus, le Christ céleste a quitté Jésus, l'homme Jésus, ce qui signifie que c'est uniquement l'homme Jésus qui a souffert la mort. Autrement dit, selon l'hérésie de Sérinthe, Christ vient de l'eau, le baptême de Jésus, mais pas avec le sang, la mort de Jésus. Christ vient de l'eau, mais pas avec le sang. Cela signifie donc que ce n'était pas le Christ, le Fils de Dieu, qui se donnait sur la croix comme victime expiatoire. Ce n'est pas le sang du Fils de Dieu qui coulait pour nous purifier de tout péché, selon cette hérésie. Et Jean réagit très vivement ici. Il dit que Jésus, c'est pour ça qu'il dit, il est venu avec l'eau et le sang. Et non seulement avec l'eau, on commence à comprendre pourquoi il dit ça maintenant, hein. Et non seulement avec l'eau, vous le voyez au verset 6, mais avec l'eau et avec le sang. L'eau représente le baptême de Jésus. Ça, c'est ok. Un baptême, en passant, qu'il n'avait pas besoin de faire, puisque c'est le baptême de la repentance. L'eau représente le baptême de Jésus, un baptême qu'il n'avait pas besoin de faire parce qu'il était sans péché, mais il s'est fait baptiser pour s'identifier aux pécheurs. Voilà pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Pour s'identifier aux pécheurs. Le sang représente la mort expiatoire de Jésus. Le sang représente la mort expiatoire en Jésus. Et puis, en passant, la mort, il n'avait pas besoin de la subir parce qu'il était sans péché. Vous voyez, c'est parallèle est très clair, hein. Mais il est mort pour s'identifier aux pécheurs. Et il est même dit dans 1 Corinthiens que Dieu l'a fait pécher, ainsi il a porté nos fautes pour que nous puissions être pardonnés. Donc le sang représente la mort expiatoire de Jésus, une mort qu'il n'avait pas besoin de subir parce qu'il était sans péché, mais il est mort pour s'identifier aux pécheurs. En passant, ça veut dire quoi, expier? J'ai utilisé un mot peut-être un peu pas habituel ici, hein. Eh bien, expier, ça veut simplement dire payer le prix ou réparer en subissant un châtiment mérité par la faute. Voilà ce que veut dire expier. Donc, lorsque Jésus est venu avec l'eau, c'est-à-dire lors de son baptême, le Père a reconnu son Fils et a fait entendre sa voix. L'Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Et tout cela pour témoigner un état de fait. Pas pour que Jésus devienne quelque chose, mais pour témoigner ce qu'il était déjà. Jésus, homme, était Christ, Dieu, dès sa naissance. Les anges n'ont-ils pas dit aux bergers, ça fait quand même bien avant ça, Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il n'est pas devenu Christ au baptême. Il l'était déjà avant, évidemment. Et lorsque Jésus est venu avec le sang, c'est-à-dire que son sang a coulé sur la croix, le Père a aussi manifesté sa puissance d'au moins quatre manières. Et selon le texte de Matthieu 27, que nous avons entendu tout à l'heure, pour peut-être nous souvenir, la première chose très forte, c'est qu'il y a eu 3 heures de ténèbres au milieu du jour.
Bon, des fois on lit ça, ok, 3 heures, mais attendez.
Au milieu de la journée, l'attaque, 3 heures de ténèbres. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. C'était pas un petit rideau de salon qu'on peut déchirer facilement, hein. C'était quasiment indéchirable et en plus à une hauteur inatteignable par l'homme et pourtant déchiré du haut en bas dans le temple. Avec toute la signification que ça nous donne au niveau de l'accès au lieu très saint. Ceci au moment de la mort de Christ sur la croix. La terre qui tremble, des rochers qui se déchirent. C'est le même terme que le voile qui se déchire, d'ailleurs, intéressant ici dans le texte. C'est assez impressionnant tout ce qui se passe à ce moment-là. Des tombes qui s'ouvrent et des corps de plusieurs personnes qui ressuscitent et qui rentrent dans la ville. Des fois, je me dis, mais je lisais ces textes comme ça, puis voilà, on lit ce texte. Puis on passe au verset suivant. Non, mais c'est impressionnant ce qui se passe ici. C'est vraiment impressionnant. Et en tout cas, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus ne faisaient pas les malins. Et pourtant, c'était des hommes habitués à la guerre, à des situations comme un peu particulières. Et ils ont été saisis d'une grande crainte et ils disaient, il est vraiment le Fils de Dieu. Dieu a aussi manifesté très clairement le fait que Jésus était Dieu alors qu'il était sur la croix. Donc non seulement par l'eau quand il y a le baptême, mais aussi le sang quand Jésus a versé son sang. Et là une question qu'on peut se poser, que je peux vous poser, et vous, dites-vous vraiment que c'était le Fils de Dieu qui était sur la croix? Ou est-il seulement venu avec l'eau? 3 témoins, l'eau, le sang et l'esprit, et vous savez maintenant à quoi cela fait allusion. Hein, si vous lisez ce texte maintenant, ben vous saurez ce que ça signifie, cette eau, ce sang et cet esprit. Et Jean prend ici ces 3 témoins parce qu'il veut suivre la loi qui demande en fait à ce qu'il y ait 3 témoins. Dans Deutéronome 19:15, il est dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une faute, un forfait, un péché quelconque qu'on peut commettre. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Ils sont là. Donc croyez-vous que Jésus s'est identifié à notre état de pécheur et qu'il a versé son sang dans cette identification pour expier nos fautes? Ça, c'est un élément fondamental. Si vous ne croyez pas cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Avant de parler du témoin ultime qu'on voit dans la suite du verset, je pense quand même utile de faire une petite parenthèse textuelle ici. Si vous avez une traduction de la Bible dite à la Colombe, ou bien une traduction Martin ou Osterwald, vous aurez remarqué que lors de la lecture du texte, il y a une partie qui n'a pas été lue. C'est dans les versets 7 et 8. Je vais vous lire ce qui est dans la version Colombe ou Martin ou Osterwald. Il est dit ceci, donc 1 Pierre 5, 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint, et ces 3 sont 1. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Alors que j'ai lu tout à l'heure, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. T'as vu là? Donc ce texte qui parle de dans le ciel, le Père, la parole, l'Esprit Saint, les 3 sont un, et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, c'est pas dans toutes les Bibles. Alors c'est un peu perturbant, hein. Donc je vais vous donner une petite explication, parce que quand ça nous perturbe, il faut qu'on aille voir pourquoi. Pour qu'on comprenne. Eh bien, pour comprendre le petit problème textuel, il faut comprendre comment la lettre de Jean nous est parvenue dans nos Bibles. Nous n'avons plus la lettre originale de Jean. Elle n'existe plus, hein, comme tous les originaux du Nouveau Testament. Et ce qui s'est passé, c'est que dès le départ, cette lettre a été copiée. Hein? Donc, ils ont reçu la lettre et ils l'ont copiée pour que d'autres puissent la lire. Et puis ensuite, ils l'ont lu, et puis en fait, quand ça commence à s'user, avant de ne plus pouvoir la lire, on la recopiait pour qu'on puisse de nouveau avoir un texte qui soit bien lisible.
Et toutes ces copies, en fait, s'appellent les manuscrits. Donc, si vous entendez parler des manuscrits, c'est ça, les manuscrits. C'est des copies. Et en fait, pour le Nouveau Testament, il y en a des milliers de copies. Et un jour, un homme a écrit une petite brochure. Et il a cité des parties de la lettre de Jean. Et dans sa citation, il a ajouté sa réflexion sur la Trinité. Sa réflexion est juste. Elle pose pas de problème. Mais voilà, il l'a ajouté dans son petit pamphlet, là, et qui a été donc distribué. Et on en a retrouvé. Donc, c'était un écrit en latin d'un Espagnol nommé Priscillian. Et avec cette réflexion, et cet homme est mort en l'an 385. Comme ça, vous voyez un petit peu là, quelle période. Et cette pensée, donc ce texte hein, qu'on a en plus, là, le Père, la Parole, l'Esprit Saint, les trois sont un, eh bien, ça a plu à bien des personnes qui se sont dit, en lisant leur Bible en latin, et c'était la Bible en latin, la Vulgate à l'époque, et puis, ben, dans la marge, quand ils étaient dans 1 Jean 5, ben, ils notaient ça. Hein, c'est ce texte en marge. Et puis, la Bible est révisée régulièrement pour ôter les fautes d'orthographe qu'on y trouve, ou pour remettre un petit peu les éléments à jour au niveau de la langue. Et lors d'une de ces révisions, en l'an 800, eh bien, on a ajouté ces notes dans le texte de la Vulgate en latin. Voilà comme ça, comme ce texte est entré dans la Bible. Mais vous allez me dire, mais nos Bibles qu'on a ici en français, elles sont toutes traduites du grec et pas du latin. Donc pourquoi est-ce que ce texte se retrouve là dans nos Bibles? Eh bien, il y a une petite histoire là derrière. Il faut remonter à la Réforme. Parce que c'est là que la Bible a à nouveau été traduite à partir des textes originaux. Avant la Réforme, on traduisait toujours de la Bible latine. Il y avait une Bible, la Vulgate, qui était l'originale, enfin qu'on considérait comme l'originale, on partait du latin. Puis la Réforme a dit non, ça a été écrit en grec. Donc on veut faire la traduction depuis le grec, pour le Nouveau Testament. Et donc, nous sommes reconnaissants aussi à tous ces hommes qui ont voulu venir plus proche du texte, évidemment. Et il faut savoir aussi que jusque-là, eh bien, on utilisait les manuscrits. Et il n'y avait pas de Nouveau Testament imprimé. Et il y avait des milliers de copies, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en les comparant, eh bien, on se rendait compte que, ben, le texte était très, très pur. Il y avait quelques erreurs de copie, mais aucune erreur n'amenait une compréhension différente du texte. Hein, et on pouvait très facilement les déceler avec les différentes copies. Et Erasme s'est mis au travail pour rassembler les manuscrits qu'il pouvait trouver pour faire un Nouveau Testament complet et l'éditer, hein, et l'imprimer. Et dans sa première édition du Nouveau Testament grec, il l'a imprimé sans cet ajout de 1 Jean 5, versets 7 et 8. Hein, comme on l'a dans les Bibles qui ne sont pas la Bible du Colombe, etc. Dans la Colombe, il y a des crochets, hein, c'est en principe, il y a une note. Et l'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais, dans toute l'Europe, les gens lisaient la Bible dans la Bible latine, dans la Vulgate, dans laquelle il y avait cet ajout. Et donc des voix se sont élevées, disent « Mais attends, ça joue pas là, il manque quelque chose dans ce texte. » Et particulièrement l'éditeur catholique Stunica l'a critiqué vertement en lui disant qu'il doit ajouter cet ajout. Et Erasme a dit « Mais écoutez, moi je veux un texte pur, un texte qui soit selon les originaux, donc montrez-moi un manuscrit grec avec ça et je l'ajoute. » Et Stunica lui en a fourni un. Et Erasme était quand même conscient que c'est pas parce qu'on a un texte où c'est ajouté en grec, qui est d'ailleurs pas un texte des premiers siècles, que c'est pas forcément quelque chose qui vient d'original. Mais il avait donné sa parole que si on lui donnait un parchemin grec, enfin un manuscrit grec, eh bien il l'ajoutait. Et c'est ainsi qu'il l'a ajouté dans la version suivante du Nouveau Testament grec, qui est devenue en fait la base de bien des traductions par la suite. Et on a d'ailleurs découvert par la suite que le manuscrit qu'il avait reçu avait été confectionné pour la circonstance. Donc, il a été traduit, c'était fait à Oxford en 1520, traduit du latin en grec. Enfin, voilà pourquoi certaines de nos Bibles ont cet ajout. Voilà, votre curiosité maintenant est satisfaite. Et ça me permet quand même de répondre à une question qui vient souvent quand on explique ce genre de choses. Mais alors, pouvons-nous faire confiance à la Bible? Puisqu'il peut y avoir des choses comme ça qui sont ajoutées, qui ne faisait pas partie de l'original, eh bien moi je peux vous répondre que oui, nous pouvons faire confiance à la Bible, parce que justement, nous avons les moyens de retrouver si ce texte fait partie ou non de ce qui était écrit dans l'original. Et là, on arrive à le trouver sans aucun problème. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, dans le contenu, cet ajout que l'on a dans certaines Bibles n'ajoute aucune erreur dans la Bible, en fait. Ce qui est écrit dans cet ajout n'a pas du tout en contradiction avec le reste de la parole de Dieu. Simplement, ça n'avait pas été écrit sous la plume de l'apôtre Jean. Et donc, il y a quelques autres situations semblables dans le Nouveau Testament, mais à chaque fois, il n'y a pas d'erreur qui a été ajoutée dans la parole de Dieu. Donc, nous pouvons avoir totalement confiance dans la Bible que nous avons et dans son témoignage. Et justement, nous allons parler du témoignage ultime. Revenons donc à ce texte du verset 9 et 10. Donc, je vous invite à reprendre vos Bibles, verset 9 et 10, où il est dit ceci. « Si nous recevons le témoignage des hommes... » Le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et dans ces textes ici, on trouve deux vérités importantes. La première vérité, c'est que le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. On va en parler quelques instants. Et deuxième vérité, eh bien, ne pas croire au témoignage de Dieu, c'est le faire menteur. Ne pas croire au témoignage de Dieu, c'est le faire menteur ou le considérer comme menteur. Alors, venons à cette notion de témoignage. En fait, la fiabilité d'un témoin dépend de différents critères, comme par exemple son âge. Vous n'allez pas porter le même crédit à un enfant de 3 ans ou à un homme de 30 ans. Et Dieu est plus grand. Un autre critère pourrait être le comportement. Vous n'allez pas porter le même crédit à une personne violente et capable de frapper les autres ou à une personne douce et attentionnée. Mais Dieu est bien plus grand en bonté. Un autre critère pour en connaître sa connaissance. Vous n'allez pas porter le même crédit à un médecin ou à un maçon lorsqu'il s'agit de diagnostiquer une maladie. Évident. Mais Dieu est bien plus grand en connaissance. Même si nous avons des critères. En fait, on fait quand même généralement confiance aux autres. On fait confiance à ce que les autres nous disent. On a confiance que les autres vont agir d'une bonne manière. Sinon, vous ne signerez jamais un contrat. Parce que vous ne faites pas confiance qu'il sera suivi. Ou bien vous ne paieriez jamais un ticket. Parce que vous dites, c'est même pas sûr que j'arrive à entrer dans le musée avec ce ticket. Ou bien vous ne rouleriez même jamais en voiture. Parce que vous n'auriez pas confiance que ceux qui sont en face restent dans leur côté. Vous voyez? Faire confiance à personne, c'est invivable. C'est invivable. Vous ne mangeriez même plus. Vous n'iriez plus nulle part, vous n'achèteriez rien du tout. Et vous n'auriez aucune relation. Et ça n'existe pas chez les vivants. Ça n'existe pas. Nous faisons de toute façon confiance aux hommes. De toute façon. De toute façon. D'une certaine manière. Nous partons du principe que nous pouvons faire confiance jusqu'à preuve du contraire. Mais alors, si la confiance est si naturelle et si habituelle, pourquoi si peu de personnes font confiance à Dieu? Pourquoi si peu de personnes font confiance à son témoignage? Parce qu'il nous l'a donné, c'est la Bible. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand. Son âge n'est pas un obstacle. Ni son comportement, il est parfait. Ni sa connaissance, elle est infinie. Vraiment, le témoignage de Dieu est plus grand. Aucun obstacle. Pourquoi ne pas le croire? Pourquoi? Eh bien, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Le Saint-Esprit lui donne un témoignage intérieur, alors que celui qui ne croit pas au Fils considère Dieu comme un menteur, puisqu'il ne croit pas ce qu'il dit. Quand on ne croit pas ce que quelqu'un dit, en fait, on le considère comme menteur. Et en 1 Jean 10, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, on avait vu ça ensemble aussi, vous pouvez regarder au début, dans 1 Jean 1, 10. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Pourquoi? Parce que Dieu dit que tous sont péchés. Puis il dit, ah non, moi j'ai pas péché, donc je fais Dieu menteur. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de situation entre deux. Soit nous croyons le témoignage de Dieu et nous nous y conformons, soit nous n'y croyons pas, ou nous ne nous y conformons pas
et nous le traitons ainsi de menteur. Ah, c'est comme si quelqu'un vous dirait de 5 mètres devant vous, il y a une crevasse. C'est ce que c'est une crevasse, hein? Un trou, un grand trou dans la neige, par exemple, dans les glaciers, ce genre de choses. Eh bien, si tu ne l'écoutes pas, tu avances et tu tombes dans la crevasse. Le fait d'avancer indique que tu traites cette personne de menteur. Parce que c'est de notre vie qu'il en dépend. Si on ne traite pas cette personne de menteur, on va se détourner du danger suite à cette information qu'on a reçue. Eh bien, la question qui me reste à nous poser, à vous poser, est-ce que tu fais Dieu menteur? Ne te détournes-tu pas du péché? Et si cela t'arrivait, eh bien, n'hésite pas à courir à lui pour le lui avouer. C'est vrai, j'ai pas fait ce que tu m'as dit. En fait, ça veut dire que je t'ai traité de menteur. Ça fait drôle de dire ça à Dieu, mais c'est vraiment ça. Puis on peut dire, mais je te demande pardon. Et il nous pardonne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il l'a dit, et c'est pas un menteur. Après avoir parlé des trois témoins, du témoin ultime, Jean termine cette partie par le contenu du témoignage, c'est les versets 11 et 12. Lisez avec moi. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu témoigne d'un don immérité qu'il donne à celui qui a le Fils. Ça, c'est magnifique ici. Dieu témoigne, en fait, d'un don immérité qu'il donne à celui qui a le Fils. Ce don, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle! Alors, je vous vois très... je vois pas beaucoup de grands enthousiasmes, hein. Oh, vous dites sûrement, c'est quelque chose de sympa. C'est sympa, la vie éternelle. Mais je peux pas vraiment l'utiliser maintenant. Enfin, ça, c'était jurassien. Maintenant. Je peux pas tellement l'utiliser maintenant. On verra ça plus tard. Un petit peu comme un enfant, on lui dit, oh, c'est magnifique conduire une voiture, hein. Mais il a pas la possibilité avant qu'il ait son permis à 18 ans. Donc il dit, oh, c'est super! C'est super, ce sera pour plus tard. Mais c'est mal comprendre ce que signifie la vie éternelle, mes amis. C'est vraiment mal comprendre. La vie éternelle, c'est pas le contraire d'une vie éphémère. La vie éternelle, ce n'est pas le contraire d'une vie éphémère. La vie éternelle, c'est le contraire de la mort éternelle. Et naturellement, nous sommes morts. Et la vie éternelle, c'est la vie en Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il n'a encore pas pleinement manifesté cette vie éternelle. Mais il agit déjà par son esprit, par cette vie. Peut-être c'est encore vague pour vous si je vous dis que la vie éternelle, c'est une vie en Jésus-Christ. Bon, d'accord, sympa. On écoute ce qu'il va dire encore, hein. Alors j'aimerais vous montrer quelques éléments de la vie de Christ. Eh bien, déjà, il est parfait. Il maîtrise tout. Il est parfaitement bon. Il va jusqu'à donner sa vie pour son peuple. Il est rempli d'amour. Il nous accepte. En fait, la vie éternelle, c'est bénéficier de tout cela. C'est être en lui. C'est je reçois dès maintenant sa perfection, dès maintenant. C'est pour ça que je suis plus en train de faire des œuvres pour devenir parfait, pour que Dieu puisse m'accepter. Mais non, j'ai reçu, c'est ça la vie éternelle. Je reçois sa perfection. Je peux m'approcher de lui en Jésus-Christ, en lui. Évidemment, je vais faire des œuvres qui lui font plaisir. Mais ça n'a plus à voir de faire une œuvre pour qu'il m'accepte. Christ est ma vie. Je suis déjà maintenant sous sa bienveillante maîtrise. Il maîtrise toutes choses dans sa bienveillance. Je bénéficie déjà maintenant de sa bonté. Je bénéficie déjà maintenant de ce sacrifice qui me purifie, qui me lave. Et je bénéficie déjà maintenant de son amour. Je bénéficie déjà maintenant de son acceptation. Pas besoin d'être grand musclé, pas besoin d'être intelligent, rempli de capacités. Non, ces choses sont secondaires. J'ai la vie éternelle. Je suis accepté par mon Dieu. Oui, il me donne des capacités. Eh ben, faut les utiliser pour lui. Oui, il me donne un peu moins. Eh ben, j'en ai un peu moins à utiliser. Je suis prêt, parce que j'ai la vie éternelle, à faire face à la mort. Parce qu'en fait, je vis déjà.
et je vis pour toujours en Christ. Même si je meurs, l'apôtre Paul qui dit ça, hein. Même si je meurs, je vis, etc. Ben, c'est ça, en fait. J'ai déjà la vie maintenant. Donc, même si mon corps meurt, si je meurs là, je vis. Je suis déjà en lui. C'est ça, la vie éternelle. Donc, quand on dit la vie éternelle, c'est pas juste quelque chose qui est dans je sais pas combien d'années. C'est maintenant. Pour celui qui est en Jésus-Christ. Et lorsque je m'en irai, ou qu'il reviendra, le péché disparaîtra, et je bénéficierai de sa vie à la perfection pour l'éternité. Oui, c'est vrai, actuellement, on est encore dans un état limité, si vous voulez, de cette vie éternelle. Comme Jésus lui-même était limité lorsqu'il était sur cette terre. Mais un jour, ses limites seront ôtées. Le péché n'existera plus, la mort n'existera plus. Donc rien n'est plus important que la vie éternelle en son Fils. Et le texte est très clair ici. Vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier dans votre Bible. Il est dit, celui qui a le Fils a la vie. C'est clair? Bon, c'est aussi clair la suite, hein. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, as-tu le Fils? Jésus-Christ vit-il en toi? As-tu été transformé par le Saint-Esprit? Ça, c'est une question importante, hein. C'est une question qui va nous aider à voir si on joue au chrétien ou pas, si on imagine quelque chose qu'on est ou qu'on n'est pas. Est-ce qu'il y a eu une transformation? Vis-tu différemment que le monde? Si tu vis la même chose que le monde, ben, c'est normal que tu te poses des questions si tu es chrétien ou pas, hein. As-tu cette paix, cette joie du salut? As-tu cette paix, cette joie du salut? Alors si tu penses être chrétien, mais que tu ne vis pas cela, ou que tu ne ressens rien, que tu te sens déconnecté d'avec Dieu, mais reviens à Jésus-Christ, reviens à lui, dépose tes fardeaux, ne cherche pas à contrôler ta vie par toi-même, par tes œuvres, par ce que tu fais, non! Repens-toi d'avoir voulu contrôler ta vie. Et crois en ton Sauveur et ton Seigneur. Et si tu n'es pas chrétien, eh bien je peux que te supplier de venir à Jésus-Christ, par celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Et si tu es chrétien, eh bien loue l'Éternel. Loue l'Éternel pour cette vie éternelle dont tu bénéficies, et dont déjà tu as des arts sur cette terre, dont tu jouiras pleinement pour l'éternité. Et pour cela, vous pourriez, cet après-midi par exemple, prendre un bout de papier et écrire tout ce que Christ est et fait. Et ensuite, vous pouvez dire, c'est pour moi en lui. On peut faire une longue liste. Je vous encourage. Et ma prière, donc, est que chacun ici présent puisse dire de tout son cœur. Aussi, quand on chante des chants, par exemple, de dire, j'ai le Fils, j'ai la vie. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Pourquoi ne le croirions-nous pas? Je crois au témoignage de l'Esprit, de l'eau et du sang. J'ai ce témoignage en moi par son Esprit. C'est ce que je souhaite que chacun puisse dire par la grâce de Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole. Si j'ai tenté avec les capacités que tu me donnes de plaider un peu face aux personnes que tu as placées ici de venir à toi, j'aimerais maintenant venir plaider devant toi, Père. S'il te plaît, Seigneur, agis dans les cœurs. C'est toi qui peux toucher, c'est toi qui transforme, c'est toi qui donne la vraie vie. J'aimerais te prier, Seigneur, que pour ceux qui pensent être chrétiens, ou qui vivotent, ou qui savent pas où ils en sont, ou qui sont déconnectés, ou qui Seigneur, que tu puisses leur donner cette grâce de venir vers toi, de lâcher prise, de pas chercher à gérer soi-même, de pas chercher à gagner un salut que toi tu as complètement accompli en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie que ceux qui sont dans cette situation puissent trouver un vrai repos en toi. Puisse, Seigneur, saisir ce salut qui est parfait, qui est complet, et dans lequel tu nous permets d'entrer et de vivre ensuite. J'aimerais, Seigneur, te prier pour ceux qui ne te connaissent pas, qui, quelque part, n'ont jamais eu même l'idée qu'ils seraient chrétiens. Oh, j'aimerais, Seigneur, te prier là aussi de toucher dans ta grâce. Je ne peux pas changer les cœurs, Seigneur, et heureusement, c'est toi qui le fais. Et j'aimerais te prier, Seigneur, d'agir dans ta bienveillance,
que personne ici ne soit perdu pour l'éternité, Père. Qu'il n'y ait pas cette phrase qui dise « Tu as entendu l'Évangile, tu t'en es détourné, tu vas vivre la mort éternelle. » Et j'aimerais, Seigneur, te prier aussi particulièrement pour tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui ont vécu cette transformation, tous ceux qui se réjouissent de ton œuvre. Eh bien, Seigneur, que ceux qui sont dans la joie puissent l'exprimer, que ceux qui sont dans des temps de difficulté pour diverses raisons puissent être aussi encouragés en saisissant que le plus important, c'est cette vie éternelle que tu nous donnes et que nous pouvons déjà maintenant bénéficier. Seigneur, tout cela, nous te le demandons avec confiance, parce que tu es un Dieu vrai et qu'il n'y a aucun mensonge en toi qui nous donne des promesses extraordinaires, que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Dans le beau nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réforme baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.